Si les cadres existent dans la République française, ça veut dire que les Maoris sont protégés. Ce n'est pas un Français qui vient de Paris qui va savoir ce qui existe dans mon village.
Épisode numéro 8. La justice autrement.
On ne peut pas, lorsqu'on est magistrat, exercer cette fonction en se drapant derrière l'habit du juge et en restant enfermé dans son palais.
Voyage en terre d'outre-mer. Ces oubliés de la République. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Kanak de Nouvelle-Calédonie, Amérindien de Guyane, Mahorais de Mayotte, insulaires de Polynésie, ces citoyens français ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être. Pourtant, ils témoignent d'une richesse unique. C'est la voix des peuples autochtones. La France ne l'a pas entendue pendant des siècles. Alors, peut-être est-il temps de l'écouter. Direction Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. À Mayotte, pendant 5 siècles, les cadis remplissaient des fonctions judiciaires, civiles et religieuses. Mais la départementalisation en 2011 a sonné le glas de cette justice cadiale musulmane. Depuis, ils passent un diplôme des valeurs de la République et des religions. Ils jouent un rôle de médiateur et de conseiller juridique. C'est l'exemple d'une justice de droit commun adaptée à cette société musulmane. En Nouvelle-Calédonie, depuis les accords de Nouméa en 1998, l'article 75 de la Constitution française autorise les Kanaks à conserver un statut juridique différent de celui du droit commun. Un droit non écrit, oral, édicté par la coutume. Il existe 2 juridictions coutumières, présidées par un juge métropolitain, mais entourées d'assesseurs kanaks. C'est une autre conception de la justice, au plus près des kanaks et de leurs traditions. 2 peuples, 2 continents et un même voyage au cœur de la justice autrement. Nous voici un peu à la maison, en fait.
Je passe beaucoup de temps ici.
Tribunal de première instance de Koné.
Là, ce sont des passages au statut coutumier, puisque un Kanak qui n'est pas de statut coutumier ne peut pas se voir reconnaître des droits au sein du monde coutumier. Là, il y a des dossiers sur des contestations d'attribution foncière représentative de ces questions de place des clans, d'importance des clans, de lien à la terre qui constitue un élément essentiel de l'identité Kanak. Mais lorsque ça arrive devant le tribunal, c'est que ça n'est pas, on n'est pas parvenu à un règlement interne.
On a sur ce bureau la coutume kanak dans l'État, le guide des peines, le code de procédure civile qui date de 2016.
Il y a toujours un décalage important, parce que la distance est ce qu'elle est et que ça arrive par bateau.
Le sac à dos, la valise, remplie de dossiers.
Les stylos, le brouillon. Tous les 15 jours, on se rend dans l'une des communes de la province qui est la plus éloignée. Bon, on va y aller.
Le juge Daniel Rodriguez est un magistrat français au bout du monde. Depuis 18 ans, il est en poste à Koné, à 275 km au nord de Nouméa. Sa juridiction couvre un territoire grand comme 2 fois l'Ariège et la plupart des habitants vivent en tribu, de façon traditionnelle. Ici, le droit civil ne s'applique pas comme en métropole et le juge tient compte des pratiques locales. Aujourd'hui, il rend la justice en chemise à carreaux, le long des pistes de brousse, dans les tribus ou dans les audiences foraines. Ce matin, à Koumak, il doit juger 20 affaires. Il sera éclairé de 4 assesseurs kanaks, garants de la coutume. Un art subtil, puisqu'il existe 300 tribus en Nouvelle-Calédonie, avec chacune son histoire, ses clans et ses règles transmises oralement.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, ça va.
Monsieur Dounézek, donc, est assesseur coutumier depuis combien de temps ?
Ça va faire 22 ans.
Mais avant moi, il ne travaillait pas autant.
Alors, le juge Rodriguez est très modeste. Hein. Il dit que de toute façon, il suit la décision des assesseurs et que c'est vous qui avez la connaissance et la culture et la coutume.
Mais c'est un très beau collaborateur à nous. Maintenant, là, il est rentré carrément dans le droit coutumier. Quoi.
Vous avez dû vous former un petit peu au droit.
Ben, moi, je suis un gendarme retraité.
Donc, vous connaissez un peu le droit.
Oui, voilà.
Monsieur Giralde.
oui. On va tenir l'audience.
Oui. Vous êtes l'un des assesseurs ce matin?
On occupe, comme on dit chez nous, les Kanaks. On fait de l'occupation.
Vous savez l'endroit qui est écrit, mais nous, c'est dans l'oralité. On dit toujours sur la pierre. Et les sentiers se creusaient à force de regarder le tableau qui est écrit sur la pierre par les anciens. C'est important depuis toujours et ça reste important jusqu'à maintenant. Sinon, il y a surtout l'esprit. L'esprit. Mais tout cas, ils savent que si on fait mal les choses, il y a l'esprit qui est derrière, qui frappe, parce que c'est lui qui juge. Et chaque clan son esprit par rapport au foncier qu'il est assis dessus. Nous, dans un droit coutumier, on dit le pied de l'arbre, il y a une branche qui va pousser comme ça. L'autre branche va pousser comme ça. Et maintenant, l'État français, le droit coutumier, il y a des arbres.
Alors ça a été une idée intéressante.
Alban Bensa, anthropologue.
Puisque à côté de cette justice-là, qu'on pouvait qualifier de justice coloniale, parce que souvent elle ne comprenait pas le monde kanak, elle jugeait à partir de critères qui ne prenaient pas en compte les valeurs du monde kanak, c'était une bonne chose d'avoir ces assesseurs coutumiers qui pouvaient ainsi d'abord s'informer eux-mêmes du fonctionnement de la justice et deuxièmement, confronter la jurisprudence kanak en la matière, soit sur le divorce, sur les différents conflits, etc., avec les règles du droit français. Bon. Alors, c'est en aucun cas un droit kanak qui n'existe pas sous sa forme écrite. Il se fonde plutôt sur la jurisprudence et surtout sur le sentiment d'appartenance des kanaks à une collectivité fondée sur des clans. Donc, c'est la confrontation des exigences du droit français avec cette exigence, disons, de la vie sociale kanak. Et en dernière instance, le juge y tranche à partir de ses avis, mais en fonction quand même des règles du droit français. Il peut faire un travail d'explication, comme fait en particulier le juge Rodriguez, qui parce qu'en fait c'est un pédagogue du droit français dans un milieu qu'il ne connaissait pas.
C'est une affaire qui doit être prise en audience publique, on laisse la porte ouverte, et on reste ici parce qu'il y a l'avocate qui est en visioconférence. Donc ce sont les clans Pororo et Pekwai qui agissent. C'est vous, Auguste.
J'avais demandé à mon avocat si le tribunal pouvait bien demander à la DRAF de tout
expulser
tous les gens qui sont dans le terrain. Parce que récemment, dans notre district, il y a eu des fusillades. Et c'est pour ça que nous, on allait au tribunal. Parce qu'on ne veut pas que ça arrive, ces choses-là.
Qu'est-ce qu'on aurait à trancher, alors, Maître Martinez?
D'attribuer la terre et puis surtout que le clan Savoie arrête de l'exploiter.
Mais nous n'avons pas compétence pour attribuer une terre. Là, c'est la première fois que je vois un dossier de ce type et je me demande quel est notre pouvoir.
Alors que le juge Daniel Rodriguez est en train de rendre une audience sur un problème de terre, parce que finalement, le foncier, c'est une question centrale.
La terre appartient toujours à un clan. Et avec la colonisation, l'État à l'époque a fait déplacer le canal de tel endroit à tel endroit. Et puis maintenant, voilà, nous on sait dans l'oralité que chacun il reconnaît sa terre, foncier, coutumièrement, il reconnaît. Mais entre-temps, comme des clans sont déplacés à cette époque, chacun s'est installé. Puis maintenant, les vrais propriétaires veulent reprendre ce qui leur appartient.
Par principe, l'agence se refuse à trancher d'autorité le sort des attributions et s'impose la recherche d'un consensus minimum pour envisager une attribution. On va renvoyer le dossier à la mise en état pour que des échanges de conclusions puissent s'opérer, lorsque les choses seront plus claires,
oui,
sur le plan juridique, coutumier.
Ok.
Merci à vous. Bonne journée. Allez, donc on va faire un tour en tribune.
On le surnomme le juge de brousse. Il refuse de voir dans ce droit coutumier un folklore et place la recherche du consensus au centre de ses décisions. Et c'est dans les tribus qu'il s'est imprégné de la coutume kanak, comme ici à Tchaoué, à 15 km de Koné.
Chez les Kanaks de Nouvelle-Calédonie.
En arrivant ici, en Nouvelle-Calédonie et à Koné en particulier, donc, j'ai regardé un peu les manifestations qui existaient. Je pouvais rencontrer ceux qui habitaient là. Mmh. Et j'avais vu un avis de bingo à Koné. Alors je suis venu jusqu'ici. Et donc je me suis assis sur une mat avec des femmes qui étaient là. Il y avait des femmes d'ailleurs. Bon, j'ai découvert à cette occasion que c'est les femmes qui organisaient ces jeux de cartes là. Et les lots, c'était des légumes, des plantes.
Mmh. Et
hey, ça va?
Oui, ça va, merci.
Bonjour, voilà, Anne.
Tu sais qu'ils aiment bien voir les autochtones, hein, les journalistes.
Ils racontent n'importe quoi, ça. Vous en êtes rendu compte.
Non, hein. Lui, c'est un kanak fabriqué, lui.
Hein? C'est donc cette femme qui m'a offert la première place sur la natte quand on a eu le bingo à Tiaoué.
Rodriguez, il est devenu un juge un peu canac.
Ah oui, pire ma canac. Mais...
Faut pas dire ça, mais chef.
C'est sauf la peau qui est blanc, mais le cœur c'est canac.
Et finalement, vous avez pris votre travail à cœur, quoi.
Au ministère, ils m'avaient reçu avant de venir, avant de me nommer ici. Ils ont regardé un peu si j'étais normal. Et puis ils m'ont demandé, bon alors, vous avez une famille, des enfants? J'ai dit oui. Ah bon, bah, c'est parfait. Vous avez des jeunes enfants, donc vous n'allez pas rester longtemps. Mais les jeunes enfants, ils ont été adoptés par le pays. Donc, ça, c'est...
Moi, parce que moi, je suis une responsable de femme en la province Nord. Et puis on s'entend très bien, ça passe bien les nouvelles avec nous. Et puis d'année quand il y a les violences, les femmes... On est bien la première de la justice, c'est Daniel qui est là. Il a bien compris ce que les Kanaks veulent. Et c'est facile pour lui de travailler comme ça.
Par contre, il y a eu une audience qui était assez émouvante, importante sur Tiaoué. Tu te rappelles, c'était ce gamin là qui était enfermé dans la cage avec les cochons. Là, Alors ça, c'était terrible. Hein. Mais pourquoi est-ce que tout le monde est venu à l'audience?
Les gens viennent pour voir parce qu'ils ne comprennent pas.
Alors c'était un enfant adopté. Et c'est parce qu'il était adopté, tu crois qu'il y avait un traitement différent?
Je crois que c'est en adoptant l'enfant, c'était pour pouvoir toucher l'allocation.
Mais comment est-ce que vous pouviez ignorer ce qui se passait? C'est toujours ce que je n'ai pas compris, moi.
Parce que chez nous, on n'a pas le droit d'aller chez quelqu'un, avoir ses problèmes à lui.
Et puis on n'a pas le droit de dénoncer, c'est ça? Mais vous saviez?
Oui.
Et la sanction qui est intervenue, elle était quand même sévère. Il y a eu de la prison ferme, ils ont été en prison. Hein. Elle a été comprise.
Oui. Ouais. Moi, je suis plutôt contente, Daniel, parce que dès que tu es arrivé à Kone, il y avait eu les accesseurs, tout ça. J'étais contente de ça, moi. J'étais contente que les affaires d'automne puissent pénétrer dans la partie judiciaire. Alors, j'étais contente, parce qu'avant, c'est tabou, ça.
Oui, parce qu'il y a une grande difficulté à parler de ces choses-là. Non, mais les gens comprennent la décision, c'est ça l'essentiel. Voilà, ils n'ont pas un sentiment d'injustice et l'idée que celui qui les juge, là, il est complètement étranger à une réalité.
Des fois, on se règle les choses à la tribu avant d'aller là-bas. Sinon, ça n'arrive même pas là-bas parce qu'on règle ici à la tribu. Les gens comptent déjà sur le président du clan pour régler les choses. Quand un qui fait une bêtise, ben, on va vite déjà voir le chef de clan.
Et qu'est-ce qu'il donne comme sanction?
Lui, il décide s'il va aller à la gendarmerie. Ou...
Mais s'il décide de ne pas aller à la gendarmerie, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tribu?
Il donne un travail à faire.
Est-ce qu'il y avait des astiquages?
Ah oui, ils attachent au poteau puis astiquer. Non, moi je ne me suis pas fait astiquer.
Il y a des filles qui se faisaient astiquer?
Non.
C'est que les garçons?
C'est que les garçons.
Ils sont plus terribles. Mais ils étaient astiqués tout seuls ou avec les autres?
Avec la population. Devant la population.
Oui.
Mais maintenant c'est fini. Chez nous c'est fini ça.
Il y a une justice française qui a dit vous ne pouvez pas taper quelqu'un, sinon vous êtes condamné. C'est ce qu'ils me disent les papas hein, quand ils viennent.
Il y en a un de ses fils qui me dit. Mais vous savez que quand vous allez nous astiquer, on va vous porter plainte. Hein.
Il y a beaucoup de choses qui, dans le droit coutumier finalement, et où dans les règles se sont arrêtées quand la justice française s'est appliquée.
Oui, il y avait des méthodes de règlement des problèmes ou des conflits au sein des tribus qui étaient parfois empreintes de violence, les astiquages, les corrections. Et ça, on l'a vu cesser parce que ceux qui étaient victimes de ces agissements sont allés déposer plainte. Et le droit pénal sanctionne ceux qui commettent des violences. Et on se trouvait devant le tribunal avec des personnes qui étaient victimes, qui disaient « on m'a tapé, on n'a pas le droit de me taper », etc. Alors qu'ils étaient fautifs, coutumièrement. Et donc là, il y avait un paradoxe extraordinaire. La justice française venait sanctionner des Kanaks qui, au sein de la tribu, étaient légitimes.
Il faut faire la coutume tout en faisant respecter un certain nombre d'usages qui sont des acquis du droit français appuyés sur les droits de l'homme, et donc on ne peut pas renier sous prétexte qu'on est loin dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Il y a un côté missionnaire chez Rodriguez, c'est-à-dire il faut faire valoir ces valeurs dans le respect d'autrui. Le mérite du juge Rodriguez et des juges qui s'entourent des assesseurs, c'est qu'ils mettent ça à plat. ils disent, ben, vous pouvez pas appliquer simplement le droit des hommes des clans les plus anciens, les aînés, etc., et soigner leurs intérêts. Ça, c'est pas la justice. Mais les Kanaks répondent, vous ne pouvez pas non plus condamner les agresseurs trop lourdement, parce que victimes et agresseurs voudraient continuer à pouvoir se parler pour éventuellement faire des coutumes de pardon ou de reconnaissance, etc. Alors il y a des cas qui évidemment étonnent beaucoup les juges, le cas où le clan de la victime va s'excuser auprès du clan des agresseurs, et ces coutumes, ces gestes de réconciliation qui peuvent prendre des années et des années, d'abord ça entretient la vie sociale, mais souvent les tribunaux français ne les comprennent pas. Il y a énormément de juges en Nouvelle-Calédonie qui ne veulent pas en entendre parler d'un éventuel droit kanak, si vous voulez. C'est vrai que dans ces petites sociétés, les juges sont surpris, souvent, la victime, quand elle obtient gain de cause, elle a le droit à des indemnités compensatoires. Ben, ils viennent pas les chercher, par exemple. Ils préfèrent essayer d'arranger les choses avec le clan agresseur, plutôt que de pousser les feux aussi loin, qui aboutirait à une rupture. En faisant ça, ben, il maintient un lien social qui lui paraît plus important que une stricte justice centrée sur les actes commis par un seul individu.
Voyage en terre d'outre-mer. La justice autrement. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
De retour au tribunal, le juge doit statuer sur des affaires familiales.
Selon le droit coutumier,
oui.
Vos enfants, ils auraient dû partir dans le clan du père.
Oui. Et moi, je voulais garder, c'est juste pour les scolarités. Majeur, retournera chez leur père.
Oui.
Bonjour. Bonjour. Alors,
on vous a envoyé l'enquête sociale qui a été réalisée. Oui. Et la conclusion de l'enquête sociale, c'est que les enfants restent avec vous, c'est ça?
Oui.
Mais Herman préfère être avec son papa.
Oui.
Et il est bien avec son père?
Oui.
Oui. Henriette et Henri?
Ils sont avec moi.
Et il n'y a pas de problème?
Non, il n'y a pas de problème.
Ils vont voir leur papa?
Pour le moment, on a des problèmes de transport.
Ah non, il faut que vous mettiez d'accord avec le papa. Qu'est-ce qu'il dit, lui, quand ils ne viennent pas?
Il ne donne aucun signe de vie.
Il a des problèmes avec son clan ou pas? Non.
Oui, je pense bien. Oui.
C'est quand même étrange d'avoir quelqu'un qui est à Nouméa comme ça, coupé de son clan. Parce qu'on a à traiter aujourd'hui. Mais les conséquences pour les enfants qui n'ont pas été accueillis dans le clan, elles sont là. Des questions?
Les difficultés aujourd'hui, c'est que vous rencontrez avec le papa. Ça, c'est très important. Que lui soit présent aussi pour faire la coutume pour les deux filles. Parce que les mettre en son nom comme ça, c'est une transgression des règles de la coutume. Donc, il faut faire le nécessaire.
Parfait. Voilà, bonne journée, madame.
Merci. Vous aussi. Au revoir, monsieur.
Notre rôle à nous, on n'est pas vraiment des juges, on est là pour assister le juge professionnel dans son audience et apporter les éléments qu'il a besoin pour que ces personnes qui viennent en tant que statut coutumier puissent comprendre. La réaction que je lui ai fait aujourd'hui, c'est parce que dans la coutume kanak, on reconnaît la femme. C'est la femme, elle porte l'enfant dans son être.
Mais après, pour toutes les questions éducatives et du clan, on s'adresse, on doit faire la coutume à l'oncle maternel.
Oui, et à travers la maman. Donc, on va voir l'oncle maternel. Le rôle du papa, c'est d'aller voir l'oncle maternel et de lui dire que j'ai un garçon ou j'ai une fille, et là, il s'appelle comme ça, pour qu'il ait la bénédiction maternelle. Et là où il y aura des difficultés, c'est lorsque ces deux jeunes filles, demain, ils auront atteint la maturité, puis l'âge de se marier, par exemple. Donc, à chaque fois, quand on fait un événement de mariage, on appelle les oncles maternels. C'est leur rôle. Et là, la difficulté vient parce que la reconnaissance des oncles maternels n'était pas faite au départ.
Elles n'auront pas leur place dans le clan.
Les questions sous-jacentes ne peuvent être examinées sans considérer l'ensemble de la communauté à laquelle appartient l'enfant et qui est le clan, avec des perturbations possibles entre une réalité coutumière et une réalité sociale qui est vécue. Donc, mais il reste à chaque fois une histoire d'un clan. C'est quelque chose de complexe et qui tient à des éléments qui ne sont pas toujours révélés à un occidental. Et donc les assureurs coutumiers, eux, le savent parfaitement, cela. Madame Regali, c'est un aéropage qui vous impressionne, là, c'est ça? Tous ces hommes-là. Alors, le dossier a été ouvert, mais c'est assez rare, à la suite d'un courrier que vous avez envoyé.
Oui.
Vous avez sollicité aide et attention, parce que vous étiez démunie.
C'est une affaire délicate. Cette femme a perdu son mari. Et selon la coutume, ses enfants sont allés vivre dans le clan du père. Dans le droit coutumier, les femmes et les enfants sont souvent délaissés pour compte. Alors le juge Rodriguez discute avec le frère du père, responsable maintenant de l'éducation des enfants.
C'est une double peine. Alors les choses se sont un peu améliorées puisqu'ils peuvent aller la voir, vous avez accepté qu'ils aillent là-bas. Néanmoins, voilà, est-ce qu'elle peut avoir une place reconnue? C'est quand même elle qui a donné le sang. Dans la coutume, les enfants doivent être élevés dans le clan paternel. On a toujours admis, dans les cas de séparation, que des jeunes enfants restent avec leur maman. Donc il n'y a pas de cadre rigide. On essaie de voir quelle est la meilleure solution pour les enfants, selon l'âge qui est le leur et les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Alors là, elle les voit tous les combien?
Ben, les vacances.
Ça va continuer comme ça?
Oui, donc.
Vous êtes satisfaite parce que c'est mieux que de rien, c'est ça?
Oui.
Mais vous auriez aimé les avoir tout le temps?
Oui, mais moi,
c'est comme ça.
En tout cas, on aura besoin des deux parties. Quand les enfants, d'ici là, ils vont prendre de l'âge. Parce que toujours est-il qu'ils ont un nom, mais ils ont des oncles maternels. Et les oncles maternels, c'est très important, c'est la maman là-bas. Il faut tisser les liens, il faut les garder pour, aussi pour les enfants, pour qu'ils puissent se sentir bien. Il y a quand même le côté papa, mais il ne faut pas oublier le côté de la maman, qui est très important dans la vie sociale des deux enfants qui sont là.
Les interventions des assesseurs tracent des pistes possibles pour les parties intéressées et parfois leur permettent d'envisager plus rapidement qu'ils ne feraient seuls des démarches nécessaires pour débloquer des situations qui sont difficiles, difficilement vécues.
Maintenant, elle est libre, mais c'est votre droit à vous aussi. Vous pouvez prendre des décisions et puis dire, ben voilà, on vous donne un endroit où vous allez vous asseoir parce que vous avez comme donné des enfants qui portent votre nom. Il portera toujours le nom, malgré tout, que la coutume n'a pas été faite pour envoyer la maman. Mais il n'y a rien en fait qui vous appartient vraiment.
Bon, il faut qu'il y ait un cadre apaisé. Le cadre du placement judiciaire vous donnerait à vous la reconnaissance de cette prise en charge de vos neveux, tout en indiquant qu'il y a un droit de visite pour la maman. Donc là, on aurait comme ça le respect de chacun des deux. On va faire ça là. Ok. Parfait. Merci.
Chez les Kanaks de Nouvelle-Calédonie.
À la différence de ce que l'on peut pratiquer en métropole, les audiences, c'est un lieu de débat réel et on essaye de faire admettre une solution. Et on essaie de parvenir à un résultat accepté. C'est pourquoi on a peu souvent des appels sur les décisions que l'on prend.
Le système Kanak, il a quelque chose dont on pourrait s'inspirer. Je pense aux politiques familiales où on essaye de mettre les gens en face les uns des autres et puis de leur faire, par exemple, préserver un principe général. Est-ce qu'on préserve la famille? Est-ce qu'on préserve l'institution? Je pense que le droit français a aussi à s'inspirer de l'expérience, disons, des Kanaks sur deux siècles, qui est une expérience d'adaptation, de glissement. Cette idée de préserver le lien social est une idée forte et positive du monde Kanak. Et en même temps, préserver le lien social, on ne peut pas faire à tout prix, à n'importe quel prix, c'est-à-dire sacrifier les droits des victimes à avoir réparation, sous prétexte qu'il faut préserver l'ordre du clan, qui est quand même un ordre masculin, où les aînés ont priorité sur les cadets, les anciens sur les plus jeunes. Le monde Kanak, il est compliqué parce qu'il est à la fois, il y a une aspiration démocratique, et en même temps, il y a des hiérarchies anciennes qui se maintiennent. On essaye de retrouver une place à chacun à l'intérieur de la communauté plutôt que de fonctionner par exclusion. Alors, ça vient aussi du fait que c'est des petites sociétés, que chez nous, l'exclusion, les gens ils changent de ville, ils vont ailleurs. En Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas aller ailleurs, si vous voulez. On peut aller d'une réserve à une autre, on peut aller à Nouméa, mais ce lien social, il est constitutif de l'identité autour des personnes.
Alors, Isaac, on vous sent très investi hein, par votre mission d'assesseur. Vous avez un grand cahier.
Oui.
Ce sont toutes les affaires traitées en 2015-2016. Et vous écrivez à chaque fois votre procès verbal.
Oui, je m'intéresse. J'ai même demandé au ministre de la Justice de nous permettre à nous, les assesseurs coutumiers, d'avoir une formation. Pour être formé sur la lecture des audiences, la lecture des délibérations, la compréhension. Pour pouvoir parier sur les deux droits.
2018, admettons qu'il y ait cette accession à la souveraineté. Que devient la justice? Comment vous l'imaginez, vous, assesseur coutumier?
Je ne sais pas. Il faut une décolonisation de mentalité. Parce que pour nous, la justice, les coutumiers, ils ont leurs droits. Mais on a pris l'habitude que les forces de l'État, c'est-à-dire tout ce qui est police, gendarmerie, sont toujours là pour faire cette justice. Alors que nous, on avait le pouvoir de justice aussi.
Voilà, et on va vous rendre la justice.
J'espère, mais vu les choses aujourd'hui, il faut travailler beaucoup. Au lieu d'une situation qui est paisible pour tout le monde, ça va être très long.
Depuis plus d'un siècle, on nous annonce la fin de la coutume, la fin du peuple kanak, et ils sont toujours là, bien debout, enracinés dans leur terre, et en même temps impliqués dans une évolution de la société, du territoire, de ce pays, avec d'autres. Cette adaptation permanente de ces peuples, elle a en contrepartie une exigence pour l'institution. C'est que cette institution doit aussi être capable de s'adapter à leur mode de vie. Et ça n'est pas toujours le cas.
Aujourd'hui, le juge Rodriguez vient d'être nommé à Mayotte.
Il faut accepter Mayotte avec sa mémoire collective.
À 15 000 km de là, ce département français construit lui aussi une justice originale.
Bon village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi.
J'appelle donc les demandeurs Sidi Ayaya, Wanambri Abdou et les défendeurs Madame Marie-Omar Dimagué, Issoufi Massoundi. Le tribunal donc déboute de l'intégralité de leurs demandes à l'égard des défendeurs. En deux mots, je n'ai pas eu dans le dossier et au cours des débats des éléments suffisamment probants me permettant de rattacher l'occupation qui a été avancée par les demandeurs aux personnes assignées devant cette juridiction. Et c'est la raison pour laquelle j'ai débouté. C'est donc un problème de preuve qui est rien d'autre qu'une application de la charge de la preuve dans notre code de procédure civile. Je m'en tiendrai là parce que autant j'essaie d'expliquer la décision que j'ai prise, autant je n'ai pas pour vocation à donner des conseils juridiques pour l'avenir.
Laurent Sabatier est le président du tribunal de grande instance de Mamoudzou. Depuis 2015, il tente de faire comprendre aux Mahorais les règles du code civil.
Les deux parties s'interpellent.
Moi, je regrette vraiment pourquoi on n'a pas riposté, pourquoi on n'a pas pris aussi les armes blanches à aller nous défendre. Parce qu'on avait eu confiance à la justice, on avait confiance à l'État, c'est pourquoi on est venu porter plainte. Où est la propriété privée, un droit constitutionnel? Peut-être qu'ils attendent qu'il y ait du sang coulé pour avoir des preuves. C'est ça ce qu'ils attendent.
Vous allez faire quoi là?
On va réunir, la population va se réunir pour voir ce qu'on va faire. Mais on ne va pas rester là. On amènera l'affaire à un tribunal qui sera compétent.
Deux mondes séparent la métropole de Mayotte dans l'océan Indien. Deux modes de pensée, deux cultures aussi. Dans cette société, à 95% musulmane, les Mahorais ne s'attendaient pas à une évolution si rapide en devenant département en 2011. Ils ont accepté, bon gré mal gré, des compromis entre Coran et Code civil et ont renoncé à recourir au Qadi. Pourtant, toute une institution, un pan de l'histoire locale. Ils étaient leurs juges, leurs notaires, leurs officiers d'état civil, leurs médiateurs et parfois même leurs confidents. Aujourd'hui, les Mahorais doivent passer chez le notaire pour l'héritage, le maire pour le mariage et le juge pour les conflits. Les 21 cadis de Mayotte sont devenus des fonctionnaires du conseil départemental, des médiateurs sociaux et leurs tribunaux sont déserts. Nourdine Bakar est le grand cadi de Mayotte, il est toujours en colère.
Ramadan.
Aujourd'hui, nous avons perdu toutes nos fonctions. Mais ce que nous demandons, c'est de retrouver au moins la possibilité de régler les litiges fonciers, car le foncier, c'est notre patrimoine local et il appartient aux Mahorais. Depuis toujours, les cadis sont la mémoire de l'île et nous seuls pouvons régler les conflits. Je lance ce message au gouvernement français. Depuis 150 ans, nous avons assuré ce rôle de juge, notaire et officier d'état civil et nous avons réglé les problèmes de la vie quotidienne. Faites-nous confiance et ne nous retirez pas nos fonctions de notaire et travaillons ensemble. Rappelez-vous, quand il y a eu des conflits fonciers, vous avez envoyé les huissiers, la police, les gendarmes qui n'ont rien pu faire. Et la situation s'est calmée à notre arrivée car nous avons encore une place importante dans la vie des Mahorais et nous sommes une autorité respectée.
Il est vrai qu'ils ont été maltraités puisque aucun accompagnement n'a été fait de la perte de leurs attributions. Alors je suis Laurent Sabatier, président du tribunal de grande instance de Mayotte depuis le 10 février 2015. Il est très difficile de les associer aux décisions de justice puisqu'ils n'ont plus le droit de dire le droit. Ils ne peuvent donc pas participer à une activité juridictionnelle. En revanche, il me semble qu'il pourrait être opportun de se tourner vers eux comme des experts, des sachants qui non seulement ont une connaissance des codes culturels locaux, mais qui aussi maîtrisent parfaitement le domaine qui est abordé. Le foncier sur Mayotte est un véritable casse-tête. Nous passons en fait d'une culture orale à une culture écrite. Or, dans certains cas de figure, nous n'avons pas ces traces écrites. Donc il appartient au juge judiciaire, lorsqu'il est saisi, de mettre le nez dans ce cafard que peut être le dossier constitué. Le foncier est un enjeu à Mayotte. Je me ferai l'écho des propos d'Yves Jégot qui avait rappelé que la construction d'un individu se fait autour de l'être et de l'avoir. L'être, c'est l'identité, c'est l'enjeu de l'état civil pour Mayotte. L'avoir, ben, c'est le foncier. Certes, les magistrats que nous sommes, nous nous formons à la question de la spécificité du foncier sur Mayotte, mais nous n'avons, quoi qu'il en soit, pas quelque chose de fondamental. C'est tout simplement la mémoire qui est à la disposition, en revanche, des cadis.
D'ailleurs, le gouvernement l'a compris. Quand il y a des conflits intervillages ou des violences entre les jeunes, vous nous appelez pour qu'on aille apaiser la situation. J'ai l'impression que c'est un peu quand ça vous arrange. Mais vous devez respecter nos traditions. C'est aussi ça, respecter la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Nous, les caddis, l'avons compris. Mais la liberté, elle est où? L'égalité, c'est où? La fraternité, c'est où? Si vous ne nous écoutez pas, j'ai peur que Mayotte s'enflamme. Vous devriez y réfléchir. Pourquoi ne pas respecter cette devise et nous réhabiliter?
Les Français, en arrivant en 1841, ont trouvé des caddis, qui sont des juges musulmans.
Sophie Blanchy, anthropologue.
Et puis, ils ont installé immédiatement l'état civil de droit commun et un tribunal civil et pénal pour les métropolitains et pour les gens qui n'étaient pas musulmans, autochtones musulmans. Et il y a donc eu ces deux justices, si vous voulez, en parallèle. Donc déjà, dans les années 40-50, un juriste comme Paul Guy se demandait comment on allait faire pour, à Mayotte, assurer les valeurs du droit local avec la présence de ce droit musulman. Les caddis, en 2011, leur fonction a été supprimée, mais effectivement, les caddis sont toujours là, ils prononcent toujours ces mariages, mais on est sorti du droit, parce que le caddie, quand il est saisi d'affaires, enfin, c'est lui-même qui doit les envoyer au juge des affaires familiales. Les caddis, maintenant, doivent envoyer les gens qui les consultent au tribunal pour ça, et les gens l'ont compris.
Chez les Maorés de Mayotte.
On est ici devant le tribunal du cadi Insa Redjali, ici à Maspare, dans la banlieue de Mamoudzou. Et c'est ici que le cadi, tous les jours, officie de 8h à 16h. Il rend à la fois des audiences, reçoit les plaignants, une coutume, une tradition ici à Mayotte. Les cadis aujourd'hui ont transformé leur rôle de juge en médiateur et assistante sociale. C'est en tout cas ce que nous allons découvrir en compagnie du cadi Insa Redjali.
Bonjour. Oui, voici, c'est le tribunal du cadi, je dirais médiateur et quasi-social.
Donc voilà, la salle d'audience avec toutes ses archives. Et puis ici, votre bureau où vous officiez avec, évidemment, le code civil et le droit coranique.
Bien sûr, pour bien partir avec mes conciliations et mes jugements, si vous voulez bien.
Et voilà, alors que vient d'entrer un couple et que là, on a affaire à une médiation de votre part.
Voilà, donc c'est une médiation que je vais entamer. Assalamu alaikum. Bonjour, je suis venu à Tunisani. Je suis venu à Tunisani. Madame Kojavani. Date de naissance de la date.
Il montre sa date de naissance, elle ne sait pas, donc elle sort un papier.
Constant, décembre 1968.
C'est le greffier qui va commencer la discussion et qu'il espère que chacun retrouvera son compte à la fin de cette discussion.
Et ça concerne quoi, le litige?
Ça concerne un couple, une vie de couple.
Aujourd'hui, seuls les religieux consultent systématiquement les cadis. Cette femme, originaire des Comores, a déposé une demande de divorce. Son mari maltraiterait sa fille, née d'une première union.
Le cadi réfléchit, prend son trois coraniques, une feuille de papier et commence à noter. Lui est en train de se justifier et récite régulièrement le Coran, disant bien évidemment qu'il y a toujours eu un comportement bienveillant vis-à-vis de sa femme et de sa fille, et que c'est l'attitude de sa femme et de sa fille qui n'était pas correcte. Là, il y a la femme qui lève les yeux au ciel et qui fait non, non, larmes aux yeux. On sent que c'est un moment extrêmement éprouvant et qu'elle n'est pas du tout au même niveau que lui qui a la parole.
Quand il y a un litige, on va d'abord voir le cadi. D'abord parce que les gens, ils vivent en maoré, en chimaoré ou en kibushi, qui est la langue malgache de Mayotte. C'est-à-dire qu'entre soi, on s'explique dans une langue que l'on maîtrise parfaitement. Et puis, il y avait une espèce de connivence culturelle qui fait qu'on parle de la même manière des choses, on se comprend. Alors, aller au tribunal, c'est quand même une épreuve hein, pour les gens. On est représenté le plus souvent par des avocats qui ont l'air de pas répéter tout à fait ce qu'on voulait dire. Enfin, c'est un monde particulier. Et le plus, le juge, lui, il juge de loin dans ces affaires-là. Peut-être la justice musulmane, c'est une de ses caractéristiques. C'est pas une justice de sanction, c'est une justice de conciliation. Suluhu, sulh. Le cadi, ce qu'il essaye, c'est de concilier. Même dans les cas de couple, hein, d'ailleurs. Bon, là, il y arrive très difficilement. Mais l'idée, c'est trouvant une solution commune.
Et alors, tandis que le mari dépose et raconte sa version des faits depuis maintenant une petite heure, le greffier s'est endormi, ainsi que l'assistant. Une situation assez improbable. Seul le caddie Insar Ejani écoute, prend des notes. Cette audience pourrait durer quelques heures, puisque la particularité de ces conciliations de caddie, c'est qu'on prend le temps d'écouter.
Mais le caddie dit de stopper, c'est madame qui va parler même. Ça va chauffer.
Assalamu alaikum. Bani hangu. Okaya.
Il demande la séparation. Le cadi, lui, il veut donner une chance parce que le cadi n'a aucun pouvoir d'acter le divorce. Le cadi rappelle les versets en Coran. Chacun doit avoir une patience vers l'autre et doit l'excuser en cas de problème, et surtout quand on a des enfants.
C'est l'impasse. Le ton monte, la femme pleure et comprend qu'en cas de divorce, elle pourrait perdre la garde de ses enfants.
Et la mère ne comprend pas pourquoi le cadi vient de lui dire... S'il reste avec toi, il risque de tomber dans la délinquance et tu devrais essayer de te réconcilier avec ton mari.
C'est compliqué et les cadis, ils reviennent dans le rôle de médiateur pour réconcilier le couple. Mais le jugement, il ne peut pas, juger.
Et il prend son droit coranique et il rappelle les principes fondamentaux. D'être ensemble, les élever ensemble, les enfants. Et la femme lève les yeux au ciel. Elle aura très très peu parlé durant cette audience. Ne serait-ce que physiquement, il y avait quatre hommes face à elle. Elle se tenait recroquevillée alors que les hommes prenaient vraiment place. Et là, on est en train de lui faire un rappel à l'ordre sur la manière dont elle doit se comporter comme une bonne musulmane.
Ça a été une audience positive pour vous ?
Très important. C'est comme ça le mariage musulman. S'il y a des difficultés, il faut avoir quelqu'un pour parler. J'ai accepté, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. On va garder les enfants comme d'habitude. C'est comme ça le mariage.
Pourquoi vous n'êtes pas allé devant le tribunal français ?
Parce que nous sommes musulmans.
En tant que musulmane, je préfère être entendue par un religieux qui nous comprend plutôt que d'aller au tribunal.
Alors aujourd'hui, maintenant, vous ne voulez plus divorcer ?
J'ai entendu les propos du caddie et j'ai accepté de réfléchir. Cela va dépendre du comportement de mon mari vis-à-vis des enfants. Mais je suis prête à revenir sur ma décision.
Elle n'a pas d'autre choix. En situation irrégulière, elle ne peut se rendre au tribunal de droit commun. D'une médiation à l'autre, les audiences se succèdent jusqu'à l'arrivée de ce père de famille. Là, le caddie doit se déplacer.
Il faut quand même satisfaire la population. Sans la population, il n'aurait pas dû d'être ici. Hein.
Vous avez votre droit coranique dans votre poche et le droit civil dans l'autre poche ?
Il est dans ma tête.
Et effectivement, c'est un sujet délicat que le grand cadi a à traiter. Il part avec ce père voir sa fille qui est tombée enceinte et essayer de voir s'il n'y aurait pas soit un mariage envisageable ou tout simplement que le garçon puisse venir aux besoins de sa fille jusqu'à l'accouchement et même après.
Ils disent, les cadis, nous on va sur le terrain. Et c'est des gens qui sont prompts à aller dans les familles pour discuter de manière tout à fait concrète avec leurs concitoyens. À Mayotte, ce qui est important, c'est que la communauté et les familles arrivent à vivre en bonne intelligence. Alors quelquefois, ça peut être au prix de droits individuels. D'ailleurs, ça a fait quelques petits scandales, parce qu'il y a eu des cas, par exemple, de viol, où les familles et le cadis trouvaient que c'était pas une mauvaise solution commune que la jeune femme soit épousée par son violeur, puisque du coup, la faute était réparée d'une certaine manière, et qu'il paye tout ce qu'il devait payer, qu'il n'avait pas payé auparavant, comme s'il l'avait épousé de manière correcte, c'est-à-dire la prestation matrimoniale, l'entretien de la jeune femme, quand elle, etc. Et là, je me rappelle de plaintes qui avaient été au tribunal, et les juges avaient été saisis de tout ça, et tout d'un coup, ils avaient appris qu'il n'y avait plus de plaintes, puisque les familles s'étaient mis d'accord. Et certainement, avec la bénédiction du caddie, sur une solution qui certainement ne respectait pas entièrement l'expérience de la jeune femme.
Aujourd'hui, ce département entend conjuguer islam et république. Les cadis et les greffiers doivent se former au droit civil. Déjà 10 d'entre eux ont passé un diplôme universitaire à Mayotte.
Voyage en terre d'outre-mer. La justice autrement. Sur France Inter.
Ahlan wa sahlan. Bienvenue.
Et bienvenue dans cette belle université.
Oui. Voilà, qui m'accueille depuis un an et demi.
Leïla Alarda, professeure.
Puisque j'interviens dans le cadre d'un DU qui s'intitule « Valeurs de la République et religion avec un S », c'est le fait de dire voilà comment fonctionne le système de la République. Les lois qu'il faut respecter, et puis il y a une culture à laquelle tout le monde a accès. Ces cadis, il y a quelque chose qui leur manque aussi, un bagage académique. Le fait que les cadis aient validé cette formation par un diplôme, ça constitue pour moi une espèce de garde-fou.
Alors dans le DU, il y a quoi ? Du droit ?
Il y a aussi de l'ouverture sur le monde avec l'approche culturelle des religions, les techniques de médiation et l'enseignement de l'arabe. Ils ont été très fiers quand ils ont obtenu ce diplôme et donc ça leur a rendu un peu un honneur perdu.
Wa alaykoum assalam, kayf alhal ? Wain anta hala ? Mawjoud ? Alhamdoulillah.
Le cadi a fait ses ablutions, il va aller prier. Je lui dis, tu reviens ? Il me dit Inch'Allah. Je lui dis, mais pourquoi Inch'Allah ? Tu vas revenir. Donc voilà l'humour qu'on peut se permettre et qui en fin de compte témoigne, comme vous l'avez vu, un peu de complicité. Voilà. Qadi Yahya, je vais vous laisser vous présenter.
Issouf Ali Mohamed, secrétaire greffier de la commune de Boigny.
Alors pourquoi vous avez eu envie de suivre ce cours ?
Pour enrichir les différentes cultures.
Et puis il y a des histoires de droit, il y a une formation en droit.
On nous apprend le droit public de la France.
Est-ce que des fois c'est pas un peu contraire au droit local, au droit coutumier ?
C'est beaucoup contraire.
Comment on fait alors ?
Comme on est français, c'est la loi française qui est supérieure.
Alors, cette formation est d'une grande richesse. Elle est présentée par des spécialistes, chacun dans leur domaine. Le référent laïcité était intervenu, des professeurs de droit sont intervenus. Donc cette formation, qui s'étale sur un an, est donc nécessairement valorisante. Pour avoir participé au jury de sortie, je vous dirais que nous avions présenté un certain nombre de cas pratiques. J'ai eu une question qui est même très difficile à traiter en droit national, qui était posée à un cadis qui venait d'apprendre par une famille qu'une jeune fille était enceinte, ne souhaitait pas garder un enfant, mais que la famille, elle, souhaitait que l'enfant soit gardé. Nous avons demandé au cadi, la question qui lui était posée, c'est quel conseil vous donnez-vous et pourquoi ? Et surtout, dans l'intérêt de qui ? Il n'était pas évident pour un cadi de répondre qu'il y avait une loi nationale qui, depuis 1975, autorise l'avortement. Il n'était pas non plus évident pour un cadi de répondre qu'il pouvait s'autoriser à donner des conseils à cette jeune fille sans que pour autant les parents n'en soient d'accord. Il n'était pas évident non plus pour un cadi de faire l'articulation entre la nécessité qu'il a de continuer à représenter certains canons musulmans auprès de la société et le respect d'une connaissance du droit national qui est en fait lié là au droit des femmes. Il l'a fait et il a eu une très bonne note, mais pas uniquement par rapport à la position qu'il a adoptée, mais par rapport à sa capacité à voir non seulement la problématique, mais aussi et surtout l'articulation entre finalement son rôle de cadi et là son rôle de conseil juridique.
On peut commencer ? Oui. Donc là, vous allez m'apporter beaucoup de choses parce que Aïssa Bnou Mariam, je ne sais pas tout. Donc je compte sur vous. Il y a justement quelque chose qui va rapprocher les musulmans des juifs. Mm-hmm. Jésus, quand il rentre dans Jérusalem, il y a un épisode qui s'appelle « Les marchands du temple ». Mohammed, quand il rentre dans la Mecque, qu'est-ce qu'il fait ?
La même chose.
Et ben alors ? Pourquoi on ne réfléchit pas à ce qui rapproche ?
C'est ça le Coran dit.
Là où je me braque, c'est quand vous faites tout le temps des références par rapport au Coran. J'ai dit, on laisse au porte-manteau son habit de musulman, son habit de chrétien ou de juif. Et on raisonne en tant qu'être humain. On appartient à l'humanité.
Je m'appelle Issouf Ali Mohamed. Je suis un greffier. Le greffier du Cadi depuis 1993.
Vous venez ici pour avoir le diplôme des valeurs de la République. Pourquoi avoir ce diplôme ?
Pour savoir les droits d'être français, parce qu'on est déjà obligé.
Il y a beaucoup de choses qui changent pour vous, les Cadis.
Je crois qu'elle a changé beaucoup de choses. Donc le Cadi, il est là juste sur le nom. C'est pas bien. Pour moi, je trouve que c'est pas bien parce que un être humain a toujours une culture. Les Cadis, ce sont les vrais Maorais. Et si les Cadis n'existaient pas, ce n'est pas le Français qui vient de Paris qui va savoir ce qui existe dans mon village. Donc si les Cadis existent dans la République française, ça veut dire que les Maorais sont protégés. Mais si les Cadis sont disparus, sont séparés complètement, ça veut dire que les Maorais sont perdus.
Les Cadis, effectivement, ont une expérience ancestrale et ils savent très bien ce qu'ils ont à faire en termes de régulation sociale, de participation à des logiques de médiation du quotidien. Mais moi, je considère que l'intérêt que nous leur portons est déjà démontré. Démontré, premièrement, par le fait qu'alors qu'ils étaient promis à une disparition certaine, nous les avons restaurés institutionnellement. Démontré par le fait que cette restauration s'est accompagnée d'un programme d'État afin de valoriser le rôle des cadis et de renforcer leurs compétences et leur légitimité, c'est indirectement admettre aussi qu'ils jouent un rôle de régulateur social. Or, la régulation sociale est l'un des trois objectifs fondamentaux d'une bonne justice.
Alors, il faut qu'on aille retourner au cours parce que moi, sinon, on va se faire disputer. Vous allez faire vos ablutions.
Oui, oui. Merci.
Quel est le personnage qu'on n'a pas traité, qui vous tient à cœur et dont on n'a pas parlé? On va parler de l'islam comme un peu. Il y a une question que je voulais vous poser. C'est l'Ahmadis, l'Ahmadiyya. Ça, vous savez. Et c'est un courant musulman qui intègre un peu Jésus-Christ. Et ça date du XXe siècle. C'est un courant de l'islam.
Un courant qui est nouveau, oui. Ici.
Il est là. Ça c'est comme les Daesh, comme les...
Ce sont des réseaux. C'est un phénomène qui se lève, paf, mais on n'accepte pas ça.
Il joue un rôle fondamental de lutte contre un phénomène dont on parle partout, qui est celui de la lutte contre la radicalisation. Nous, démocrates, nous ne pouvons donc que considérer que les cadis, pratiquant un islam tolérant, soufis de confession, sont l'ennemi de nos ennemis, ils ne peuvent être que nos alliés. Et je ne vois pas comment, alors qu'ils sont sur ce territoire national devenu département français, on devrait, là aussi, s'octroyer une permission fort maladroite qui consisterait à les écarter de cette lutte contre la radicalisation, alors qu'ils sont l'essence même de la pratique de cet islam tolérant et de sa protection.
Il nous faut un cours sur Mohammed. Et là, c'est vous qui allez un peu l'animer, je suppose. Mais il n'y aura pas, attention...
Technique.
On construit, non pas une nouvelle justice à Mayotte, mais nous construisons en permanence une protection de tous les acteurs qui contribuent au lien social de cette société en pleine mutation, qui connaît un certain nombre de violences, de cette société dans laquelle nous avons 50% de la population qui a moins de 18 ans, de cette société qui a besoin d'être éduquée et d'être soutenue. La justice joue un rôle éducatif au-delà de son rôle de régulation. Les cadis jouent un rôle éducatif en su de leur rôle de cohésion sociale.
Il y a quelques semaines, les cadis participaient au premier colloque sur l'islam à Mayotte. Ils seront prochainement entendus devant la Commission européenne sur la thématique de l'islam et des valeurs de la République. Un nouveau rôle pour ces cadis et une expérience au sein de la République. Rester ou partir, c'est la question que se posent certains peuples d'outre-mer et c'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine dans Voyage en terre d'outre-mer. C'était un documentaire d'Anne Pastor, réalisé par Clément Baudet, au montage Édouard de Penoat, assisté de Maréva Jacquard et Nicolas Traîneau, au mixage Maxime Ingrand et à la programmation musicale Djoubaka.
Merci à Aurélien Siri, Aruna Atoumani, Benoît Trépied de l'Iris et à Paul Ouameau. Ce programme a reçu le soutien à Mayotte d'Air Austral, de l'Office du Tourisme et d'Evaneos, en Nouvelle-Calédonie, d'Air Calin et de l'Office du Tourisme. Le voyage continue sur France Inter avec Stéphanie Fromentin dans l'espace francophone.